Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour depuis le lieu unique à Nantes pour la 10e édition des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel co-organisé par l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques et Nantes Métropole. Regard sur la Russie avec cette question, Russie, quel avenir avec ou sans Vladimir Poutine? Le chef du Kremlin a décrété cette semaine la mobilisation partielle, soit l'engagement de 300 000 réservistes. Moscou a également annoncé l'organisation de référendums dans les territoires occupés afin de les rattacher à la Russie. Ils ont démarré ces référendums vendredi et se tiennent jusqu'au 27 septembre. Vladimir Poutine a également relancé le chantage nucléaire. Alors pourquoi cette fuite en avant du président russe, sanctionné par les puissances occidentales, globalement en difficulté sur la scène internationale? Vladimir Poutine peut-il sortir vainqueur de la guerre, se maintenir longtemps au pouvoir alors que le conflit en Ukraine commence à déchirer la société russe? Autant de questions avec nos invités que je présente. Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et autrice de « Jamais frères, point d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique » parue aux éditions du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, son dernier ouvrage « Géopolitique de la Russie » aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean de Guignasti, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur, auteur de « La Russie, un nouvel échiquier » qui vient de paraître aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
7 mois après les débuts de la guerre, sa résolution semble plus lointaine que jamais et ses conséquences particulièrement dangereuses. Jamais depuis la crise des missiles à Cuba il y a 60 ans, les leaders américains et russes ne s'étaient confrontés de manière aussi explicite sur les dangers d'une guerre nucléaire. Ma première question, c'est votre regard à chacun sur les nouveaux développements. Pascal Boniface, dans son discours inaugural des Géopolitiques de Nantes, évoquait l'idée de dérive et d'accélération de la défaite de Vladimir Poutine. Est-ce que vous partagez les uns et les autres, Anna Colin-Lebedev?
Alors, sur la dimension militaire et géopolitique, j'avoue que ma compétence est limitée. Je suis sociologue et spécialiste davantage des dynamiques internes des sociétés. Mais il est vrai que les déclarations faites par Vladimir Poutine le 21 septembre, et notamment la déclaration de mobilisation générale, mais aussi les référendums, sont un bouleversement majeur pour la politique intérieure russe, qui remet en cause, en fait, la totalité du contrat social qui a été établi entre le pouvoir russe et la société. Nous avons bien évidemment encore du mal à voir les développements, l'évolution que ça prendra. Aujourd'hui, ce que l'on observe aujourd'hui, vous voyez, dans l'immédiat, en fait, post-déclaration, ça s'apparente à un séisme.
Alors, remise en cause du pacte social, c'est l'idée que les gouvernants disent à la population russe, c'est « laissez-nous gérer, en échange, on vous laisse, vous, citoyens, tranquilles dans vos vies ». C'est probablement cela dont il... Peut-être qu'on développera un petit peu plus tard, si vous voulez bien, Anna Colin-Lebedev. Jean de Guignasti, votre point de vue à vous sur les derniers événements, dérive, accélération de la défaite?
Alors, moi non plus, je n'ai pas une compétence militaire particulière, mais il est clair que les Russes ont subi une défaite majeure. Ils ont livré beaucoup de matériel, il y a eu une débandade des troupes, et donc, effectivement, la mobilisation partielle, c'est un signal vis-à-vis de l'étranger, c'est un signal vis-à-vis des Ukrainiens, même si le mot ukrainien et Ukraine n'est jamais prononcé dans les discours de Poutine, et qui dit plutôt qu'il se bat contre l'Ouest collectif, si je puis dire. Mais surtout, il y a un message majeur, c'est que le référendum d'annexion, parce qu'il faut dire ce que c'est, est un référendum qui signale au monde entier et à l'Ukraine qu'à partir du moment où ces territoires défendus grâce à la mobilisation générale sont des territoires russes, à ce moment-là, tous les moyens sont légitimes pour les défendre. Et donc, ça veut dire une chose, ça veut dire que pour Poutine, il n'y a pas de défaite possible.
Elsa Vidal.
Alors, c'est vrai que ces référendums et la décision de la mobilisation nous ont fait entrer dans un moment historique assez particulier, parce qu'en Russie, la mobilisation, on ne l'a connue qu'au préalable, lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est très clair que c'est un signal d'une grande puissance qui est envoyée à la population russe. Ce qui est intéressant, à mon sens, c'est aussi que cette décision, elle est au carrefour de plusieurs points de pression. D'une part, Vladimir Poutine a été contraint d'entériner une défaite militaire, ou plutôt un succès ukrainien dans la région, notamment de Kharkiv, le succès de la contre-offensive. Parallèlement, il a quand même été mis au pied du mur par des gouvernements qu'on a tendance à présenter comme ses alliés, qui sont la Chine, la Turquie, également l'Inde, qui lui ont clairement intimé que leur préférence n'allait pas vers cette guerre et qu'ils ne pouvaient pas compter sur un soutien. C'est à ce moment-là qu'on a vu ce changement de stratégie. Et pour moi, il est évident que là, Vladimir Poutine s'est quand même efforcé d'obéir à la Chine, à l'Inde, et qu'il fait le choix de revenir sur un terrain politique en organisant ces pseudo-référendums dont l'issue ne fait aucun doute. Et au même moment, il nous met, nous, occidentaux, sous pression en brandissant une fois encore, puisque ce n'est pas la première fois depuis le début de cette guerre, l'argument de la guerre nucléaire. Il nous enjoint donc de rejoindre un processus de négociation et de retirer notre soutien à l'Ukraine pour que celle-ci aussi s'asseye à la table des négociations. Le problème étant que la mobilisation nationale en Ukraine a atteint un point tel dans cette guerre qu'il n'est absolument pas acquis que ni le président ukrainien ni les alliés de l'Ukraine, s'ils devaient choisir d'accepter ce dialogue avec Vladimir Poutine, seraient en capacité à l'imposer aux Ukrainiens.
Alors, arrêter notre soutien à l'Ukraine, il sera peut-être intéressant, on le fera plus tard, et je vais vous passer la parole, Lucas Aubin, d'évoquer cette volonté et cette croyance de Vladimir Poutine qui va parvenir à diviser les Européens, ne serait-ce que sur les questions de gaz, de pétrole, avec l'augmentation des prix, et que probablement c'est ce qu'il espère pouvoir jouer. Lucas Aubin, votre point de vue à vous, à la fois sur les référendums, on y reviendra bien sûr, la question de la mobilisation, est-ce que ça va changer quelque chose que de mobiliser 300 000 réservistes dont on voit que beaucoup quittent la Russie pour échapper
Alors sur le terrain, c'est très difficile de le dire pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que ces réservistes sont très peu formés. Ils ont peu l'expérience des conflits à haute intensité. Et on sait aussi que le principal problème, jusqu'à présent pour l'armée russe, c'est un manque de moyens d'armement moderne. On sait que ces dernières semaines, la puissance russe a fait des demandes auprès de la Corée du Nord et de l'Iran pour obtenir du matériel militaire. Donc c'était déjà un aveu de faiblesse à ce moment-là. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, concrètement, est en train de former ce qui s'apparenterait finalement à de la chair à canon qu'il va mettre en première ligne à l'est de l'Ukraine pour essayer de conserver ces fameuses quatre zones soumises à un référendum. Donc, est-ce que ça va fonctionner ? Pour le moment, c'est très difficile de le dire. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle de la société russe, cette décision de mobilisation partielle a fait rentrer la guerre dans toutes les familles russes. Et ça, c'est vraiment très important de le savoir, parce que jusqu'à présent, on parlait d'opérations militaires spéciales, et finalement, c'était des soldats déjà entraînés qui partaient au front, ou alors, quand ils n'étaient pas entraînés, ils étaient choisis dans des républiques en Russie, donc c'est des régions où des minorités ethniques vivent. Et donc, finalement, ces minorités ethniques, généralement, permettaient de conserver la population russe, qui représente 80% de la population totale de la Fédération de Russie, de conserver la population russe en dehors de ce débat en fait politico-militaire finalement. Et aujourd'hui, quand on sait que effectivement 300 000 personnes vont être mobilisées, mais parmi 25 millions de personnes qui pourraient l'être. Donc aujourd'hui, on a 25 millions d'hommes en Russie qui vivent avec une épée de Damoclès sur la tête, à savoir est-ce que ça va me tomber dessus ou non, et ça explique notamment l'exode qu'on a pu voir ces derniers jours.
On voit ça effectivement, toutes ces images à la télévision de gens qui ont pris des billets hors de prix pour quitter la Russie ou en voiture pour atteindre les pays voisins. Et la question qui se pose, c'est peut-être de savoir si finalement la réaction de la population russe, est-ce que ça n'est pas finalement ce qui fait le plus mal à Vladimir Poutine, à Nicolas Lebedev ?
Jamais le pouvoir russe, en tout cas jamais le pouvoir de Vladimir Poutine, qui est, donc rappelons-le, président ou au pouvoir de manière, dans d'autres fonctions depuis 2000, donc depuis 22 ans maintenant, Jamais ils ne s'étaient autant mis à l'épreuve qu'avec cette mobilisation, qui n'a d'ailleurs de partiel que le nom. L'affichage de la mobilisation partielle, limitée par Vladimir Poutine, ne correspond ni à la réalité du décret de mobilisation qui a été signé, ni à la réalité de la mobilisation telle qu'elle se pratique déjà sur le terrain. Et ça, c'est important parce que c'est un facteur de fragilisation, et je me permets d'expliquer. Donc le décret de mobilisation lui-même, en fait, pourrait être un décret de mobilisation générale, c'est-à-dire qu'il ne fixe aucune limite, ni en termes géographiques, ni en termes quantitatifs, ni en termes de catégories de personnes qui sont mobilisées. Donc tous les mobilisables, tous les réservistes sont potentiellement mobilisables, sachant que les réservistes en Russie, ce sont tous les hommes ayant fait leur service militaire avant d'avoir atteint l'âge limite, et également les diplômés d'une centaine d'universités dans des spécialités totalement civiles, les universités disposant d'une chaire militaire. Donc il s'agit de, pour le coup, des couches les plus éduquées, les plus urbaines, les mieux installées de la société, qui sont en fait officiers de réserve, sans avoir jamais tenu une arme entre les mains, et qui sont également dans cette catégorie potentiellement mobilisable. Donc le décret, vous voyez, ne les met pas hors de danger et hors de portée. Et je rejoins ce que disait Lucas sur la guerre qui rentre dans toutes les familles, mais surtout la pratique qu'on voit se développer sur le terrain. La mobilisation vient tout juste de commencer, mais on a déjà des signaux qui arrivent. Et ces signaux nous montrent qu'en réalité, la mobilisation est authentiquement générale. C'est-à-dire que les autorités désireuses de remplir les quotas qui leur sont donnés, qui d'ailleurs, vous voyez, le 300 000 en réalité est un chiffre à prendre avec beaucoup de réserve. Dans le décret de mobilisation, il y a un point 7 qui a été caché et non rendu public, dont les autorités disent, parce que en fait, les chiffres de la mobilisation, les objectifs sont donnés dans le point 7, donc c'est un secret d'État et on vous le donne pas. Mais en réalité, c'est très extensible, c'est-à-dire que c'est une mobilisation partielle illimité et qui est pratiqué comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les autorités militaires locales qui raflent littéralement les citoyens en âge potentiellement d'être mobilisables. Et une fois arrivés dans les commissariats militaires, eh bien, ils font le tri, voyez, et tout ce qui peut être incorporé est incorporé, y compris des gens qui, juridiquement, n'ont pas à être soumis à la mobilisation. Les témoignages commencent à arriver déjà. En quoi est-ce que c'est important ? Alors, au-delà de l'impréparation, effectivement, de toutes ces personnes mobilisées, au-delà de leur état moral, au-delà de la capacité à les armer et à les équiper, toute la population se sent d'un coup vulnérable, alors même que le pouvoir s'était attaché, et le Kremlin et Vladimir Poutine en lui-même s'étaient attachés pendant tous ces derniers mois à rendre la guerre la moins sensible possible à la population russe. Juste obtenir un espèce de soutien de façade, mais surtout rien de plus. Et là, tout d'un coup, on a un renversement. Et ce qu'on demande aux Russes, c'est un sacrifice de leur vie. Et on demande ça, effectivement, à chacune des familles. Et ça, c'est totalement inédit.
Alors, un tournant peut-être. Jean-Duc Dynasty, Elsa Vidal, la réaction de la population, est-ce qu'on peut y voir une sorte de réveil de la population ? Est-ce que c'est un vrai défi pour Vladimir Poutine ?
En fait, c'est la troisième série. Les grandes manifestations, très grandes manifestations, celles qui réunissent 100 000 personnes dans les rues de Moscou, etc., ça a été en 2011-2012, au moment de la critique des trucages électoraux aux législatives et la critique de ce qu'on appelle le ROC, c'est-à-dire quand Poutine a remplacé Medvedev à la tête de l'État. Et puis ensuite, en 2018, ça a été cette fois-ci totalement sociétal, c'est-à-dire la réforme des retraites qui a mis des centaines de milliers de personnes dans toute la Russie dans la rue. Poutine l'a payé très cher en termes de popularité et sans doute il le paye encore. Et là, c'est la troisième vague potentielle, si je puis dire. Pour l'instant, nous avons quelques éléments immédiatement interpellés, réprimés, etc. Mais il est clair que si on s'en prend à la population, il y a un risque pour le pouvoir qu'il y ait conjonction entre une critique politique, ce qui était le cas en 2011, et une critique sociétale, ce qui était le cas en 2018. Et cette fois-ci, il y aura jonction des deux. Et là, c'est une période dangereuse pour le pouvoir de Poutine.
Elsa Vidal.
Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. On est entré dans une période inédite, dangereuse. Jamais Vladimir Poutine n'a pris autant de risques personnels. Pour autant, je dirais que les réactions à la mobilisation des membres de la société qui sont contre la guerre, cette mobilisation, elle relève pour le moment des segments de la population qui sont acquis à l'opposition. Et leur profil sociologique, ce serait typiquement moins de 35 ans, parlant une langue étrangère ou ayant pu voyager à l'étranger, plutôt les libéraux, plutôt les urbains. Mais on les a vus très régulièrement dans la rue. Attendons de voir si on atteint les niveaux des précédentes mobilisations de 2018 et 2012. Ce qui est aussi très régulier et très, je dirais, pour le moment, typique de la situation, c'est que la mobilisation militaire, cette fois, dans la pratique, elle est très inégalitaire. Elle est aussi inégalitaire que la mobilisation contre la guerre. Et notamment, on a vu au niveau des régions apparaître une totale divergence, c'est-à-dire que, par exemple, les hommes qui sont concernés par cette mobilisation ont tantôt le droit de quitter leur arrondissement, tantôt le droit de quitter leur ville, leur région, la République ou la Russie. Et c'est laissé dans une espèce de flou administratif. On a vu apparaître des mouvements de mobilisation contrainte d'étudiants dans des zones du pays qui sont peuplées majoritairement de peuples autochtones, natifs en Sibérie, qui ont déjà beaucoup contribué à cette guerre, mais qui viennent d'être rassemblés dans des universités et emmenés vers des avions. On a vu aussi dans le Caucase, qui a déjà fourni un grand contingent de combattants. On a vu des mères s'opposer au départ de leurs fils et aussi Ramzan Kadyrov dire, bien qu'ils soient en Russie, il n'y aura pas de mobilisation en Tchétchénie. Pourquoi ? Parce que la Tchétchénie a déjà rempli ses objectifs d'envoi de soldats, qu'il a chiffré très précisément, ce qui est étonnant. Donc il y a, je dirais, un concentré de ce qui fait la vie politique russe habituelle. Des opposants qu'on connaît bien, une très forte inégalité dans la capacité à faire valoir ses droits. Quoi qu'on en dise, même si Vladimir Poutine a voulu très souvent parler de verticale du pouvoir, un certain désordre administratif, est-ce que la crainte va se cristalliser par une manifestation, une opposition durable ? Je ne le sais pas, parce que les gens sont d'abord très occupés, soit à fuir, soit à permettre de fuir. Et assez typiquement, l'opposition au pouvoir, c'est une vieille phrase que vous avez dû entendre, c'était « pour les Russes se manifestent avec leurs pieds ». Donc, le pouvoir étant très régulièrement conçu comme une espèce de mal nécessaire, un peu inévitable, qui garantit contre le chaos, les familles essayent de se soustraire à son influence, de sauver les leurs, plutôt que de s'opposer au pouvoir, puisque les moyens disponibles au pouvoir sont si disproportionnés que la lutte semble assez peu gagnable. Tout l'enjeu et de faire croire ou de pouvoir communiquer d'un groupe social opposé à la guerre à un groupe social qui globalement cherche simplement à éviter ses conséquences, qu'il est possible de se mobiliser collectivement, de faire société, et ça va être plutôt difficile.
Alors peut-être un élément intéressant, c'est il y a une question de génération hein, dans les mobilisations, on est bien d'accord, peut-être je me tourne vers vous Lucas Aubin, où on voit finalement les jeunes de moins de 40 ans contester plus facilement le pouvoir que leurs parents et être sensibles peut-être aux valeurs européennes. En tout cas, il y a véritablement ce distinguo générationnel à faire. Et là, dans ces mobilisations, eh bien, on voit les générations au-dessus de 40 ans se mobiliser parce que ce sont leurs enfants qui sont concernés. Lucas Aubin.
Oui, alors, bon, moi, je ne suis pas sociologue. Néanmoins, ce que je peux dire sur cette question, c'est déjà, d'une part, on a beaucoup de mal aujourd'hui à chiffrer et à voir ce que pense l'opinion publique russe. C'est-à-dire que depuis la deuxième semaine de guerre, il y a une loi en Russie qui dit que tout un chacun n'a pas le droit de s'opposer à l'opération militaire spéciale sous peine d'être condamné potentiellement jusqu'à 15 ans de prison. Donc aujourd'hui, quand vous avez un sondage, les réponses que vous allez obtenir sont des réponses qui vont généralement aller dans le sens du pouvoir ou alors vous n'allez pas avoir de réponse du tout. Donc on est un peu aveugle en ce moment sur cette question-là. Néanmoins, il y a des signaux par contre qui me laissent penser que par-ci, par-là, la population russe, effectivement, effectivement, commence à s'opposer au pouvoir ou à s'en désintéresser. Récemment, il y a eu une statistique qui montrait que les audiences de la télévision d'État en Russie avaient baissé de 30% depuis le début du conflit. Mais bon, difficile évidemment d'en tirer des conclusions et d'aller plus loin. Ensuite, on a vu cet exode dans les heures qui ont suivi l'annonce de Vladimir Poutine. On a vu ces avions pris d'assaut, des billets hors de prix.
Lucas, je vous interromps parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti pour cette première partie est terminé, mais je vous relancerai. Très bien. Bien sûr, sur ces images d'exode que nous voyons depuis plusieurs jours sur nos écrans de télévision. On vous retrouve avec Jean de Glignasti, Elsa Vidal et Anna Conin-Lebedev après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Russie, quel avenir avec ou sans Poutine? Nous retrouvons nos invités depuis Nantes, où se tiennent les géopolitiques de Nantes, au lieu unique, la scène artistique nantaise. Nos invités, Anna-Colin Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, autrice de Jamais Frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique parue aux éditions du Seuil. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur, auteur pour son dernier ouvrage de la Russie, un nouvel échiquier paru aux éditions Erol, et Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, son dernier ouvrage, Géopolitique de la Russie, aux éditions La Découverte. Lucas Aubin, je vous ai coupé la parole à la fin de la première partie de l'émission. On était sur les questions de la mobilisation qui a cours aujourd'hui en Russie et ces images que nous voyons d'exode pour ceux qui le pouvaient financièrement.
Tout à fait, oui. C'est pas du tout évident, en fait, ces images d'exode, dans le sens où, par exemple, au lendemain de la prise de la Crimée en 2014, la cote de popularité du président russe, Vladimir Poutine, était montée à plus de 88% d'opinion favorable. Donc il y avait eu un effet patriotique très important, très intense. Aujourd'hui, après 7 mois de guerre, évidemment la population russe, a priori, n'est pas dupe, confrontée à la réalité du combat, peut-être qu'elle prend d'un coup conscience aussi des difficultés du terrain, du fait que finalement cette guerre n'est pas forcément juste et qu'on a affaire à une guerre concrètement impérialiste qui date évidemment de la chute de l'Union soviétique. Autant de signaux qui laissent penser que potentiellement il y aura des zones dans le futur en Russie, des zones de contestation nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant, notamment parce que la mobilisation partielle, qui évidemment est une mobilisation générale qui ne dit pas son nom, a contribuer finalement à concerner l'ensemble de la population russe qui ne peut ignorer aujourd'hui ce conflit.
Alors vous avez tous parlé de tournants avec cet exemple de la mobilisation de 300 000 réservistes et on a compris que c'était un chiffre qui était vraiment à minima parce que vous nous l'avez dit Anna-Colin Lebedev dans la première partie de l'émission, en fait c'est une mobilisation générale d'une manière ou d'une autre, donc tournant, période dangereuse. Ce que j'aimerais comprendre c'est d'abord est-ce que cette mobilisation est d'après vous un risque politique que prend Poutine et en quoi la période est-elle très dangereuse Anna-Colin Lebedev?
C'est très difficile en réalité aujourd'hui d'analyser la vie politique russe pour deux raisons. D'une part parce qu'elle est opaque et d'autre part parce qu'elle est désinstitutionnalisée. Et je pense que c'est un élément clé pour essayer de se poser la question qu'est-ce qui arrive ensuite face à cette grogne par exemple populaire qu'il pourrait y avoir, mais aussi face à la grogne des élites qu'il pourrait y avoir. Les élites qui sont beaucoup plus sous pression dans les régions que ne l'est Moscou, au final, vous voyez, retranché quelque part dans la forteresse. Alors, il faut comprendre que les 20 années au pouvoir de Vladimir Poutine ont été 20 années de démantèlement de l'ensemble des institutions politiques qui avaient été fixées dans la Constitution russe de 1993 et, je dirais, qui avaient commencé à fonctionner bon an, mal an sous la présidence de Boris Yeltsin. Donc, le système de parti était extrêmement baroque, imparfait, traversé de jeux de clans, de milieux d'affaires, etc., dans les années 1990. Mais dans les années 2000, Vladimir Poutine a en fait vidé de sa substance le concept même de parti politique et d'opposition partisane. Donc aujourd'hui, dans le Parlement, vous avez le parti du pouvoir et vous avez des faux partis d'opposition qui sont là en fait pour représenter une certaine diversité des opinions, mais qui en réalité en font juste une chambre qui entérine tous les projets qui sont proposés par le pouvoir. Et on peut dire ça de l'ensemble des institutions. Vous voyez, la Russie est un État fédéral, mais néanmoins le pouvoir que peuvent avoir les gouverneurs des régions et les instances politiques locales qui sont conséquents dans la Constitution ont été vidés de leur substance. Et puis la Constitution elle-même a été réformée d'une manière totalement irrégulière lors d'un référendum constitutionnel de 2020. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus sur ces éléments un petit peu techniques? C'est-à-dire que derrière Donald Trump aux États-Unis, il y avait des institutions. Et je dirais, une fois Donald Trump parti, le fonctionnement institutionnel a été blessé, mais n'a pas été anéanti par la présidence d'un seul homme. Les années au pouvoir de Vladimir Poutine et les réformes successives ont fait en fait du champ politique russe des institutions à champ de ruines,
Et donc l'ensemble des liens politiques aujourd'hui sont des liens personnels. C'est beaucoup des allégeances personnelles, soit à Poutine directement, soit à quelqu'un qui a son allégeance à Poutine, etc. Tout repose sur des liens interpersonnels et donc on a énormément de mal en réalité à comprendre qu'est-ce qui se passe par exemple si Poutine disparaît. Oui, il y a certes des procédures constitutionnelles qui sont mises en place, c'est le Premier ministre qui prend l'intérim, mais au-delà de ça, on sent que les scénarios différents sont complètement aléatoires. Donc dire aujourd'hui ce qu'il y aura dans l'après-Poutine est totalement impossible. Alors d'où peut venir la contestation du pouvoir ? De la population dans les rues ? En réalité, j'en doute. J'en doute parce que ce n'est pas le mode d'action privilégié des Russes, non seulement sur ces 30 dernières années, mais de manière générale. Je dirais, dans l'histoire russe, il y a très peu d'exemples d'une contestation dans la rue qui aurait renversé un pouvoir politique, qui aurait montré aux citoyens qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc les Russes ont d'autres modes d'action qui ressemblent effectivement à des modes d'action avec les pieds. Ils utilisent les armes des faibles qui sont la défection, le refus d'obtempérer, mais disons sans l'afficher, le sabotage, etc. Donc je dirais l'État risque plus de pourrir sur place qu'il ne risque d'être renversé. Et puis il y a les élites à différents niveaux. Et les élites à différents niveaux ne vont pas sortir dans la rue pour contester le pouvoir de Vladimir Poutine. En revanche, dans les couloirs, j'imagine que cette situation peut fragiliser et créer des arrangements pour l'après, des jeux de pouvoir pour l'après. Et disons, Poutine peut cesser de devenir un atout pour devenir un handicap pour ces élites politiques qui tiennent aussi à leur fils qui reste en vie et à leur villa en Italie où ils ne peuvent pas aller pour l'instant et où ils aimeraient bien aller quand même.
Ce qui confirme, mais peut-être je vais me tourner vers vous, que finalement, avec cette mobilisation, Poutine a pris un vrai risque politique. Elsa Vidal.
Oui, il prend un risque politique et en même temps, il répond à une injonction politique qui vient donc de la Chine, qui était essentiellement son protecteur vis-à-vis de l'Occident. On avait très peur du soutien chinois à la Russie, et là, il y a eu clairement une indication qu'il n'en était plus question. Mais pour revenir à cette fragilisation, je pense qu'en Russie, indépendamment de catégories d'âge et de revenus sociaux, etc., si on parle de la conception du pouvoir, le pouvoir doit être fort. Et là, Vladimir Poutine a été quand même désavoué ou abandonné par certains leaders mondiaux sur lesquels il comptait. Et donc, il est en fragilité. S'il n'est pas en capacité d'amener à une partie des élites les résultats qu'elles escomptent, et déjà, elles ont perdu accès à certains revenus, accès à certains biens, elles ont perdu le futur de leurs enfants, qui étaient en général prévus à l'étranger, puisque les élites les plus se présentant comme les plus patriotes en Russie sont en général dotées d'un passeport d'une autre nationalité, de biens immobiliers, et envoient leurs enfants à l'étranger. Donc il y a un risque de semer du mécontentement dans l'élite actuelle. Et puis, si jamais les référendums qui sont en cours maintenant apportaient une réponse partielle, c'est-à-dire si l'Ukraine continuait à attaquer et continuait à se battre et à remporter des victoires, il se peut aussi que le pouvoir soit dépassé sur sa droite par ce qu'on appelle le secteur Z. Il y a des bloqueurs très influents qui ont été assez encouragés par le pouvoir au début de cette guerre, qui commencent à le critiquer et à dire « Non, mais en fait, là, c'est une vraie défaite. » Et en fait, la seule question qui se pose, c'est « Quand va-t-on perdre ?» Et quand on appelle, parfois, ça peut nous arriver d'y penser, à un changement de régime ou en tout cas à un changement à la tête de l'État russe, il faut garder à l'esprit que ce changement peut se faire dans le sens d'un durcissement. Et c'est quelque chose à quoi on ne pense pas assez souvent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un cadre constitutionnel. Si Vladimir Poutine venait, après une entente entre ceux qui valident sa présence au pouvoir ou dont il représente les intérêts, s'il était plus reconnu comme le meilleur représentant de leurs intérêts, on pourrait aller vers un scénario qu'on découvrirait au dernier moment, où il serait remplacé. Mais constitutionnellement, donc, il y a un Premier ministre qui, pendant 3 mois, prendra l'intérim, ainsi soit-il. Mais derrière, il y a le Conseil de sécurité. On pourrait tout à fait voir quelqu'un dont on ne parle pas tellement, mais qui s'appelle Nikolai Patrouchev, et qui est plus dur que Vladimir Poutine. Donc ça, c'est impossible aussi.
C'est ça. On évoque beaucoup ce clivage, cette rupture entre les durs et les mous en Russie. Mais en fait, ce que vous nous dites là, Elsa Vidal, c'est qu'il y a, c'est un clivage aussi entre les durs et les encore plus durs que les durs.
Enfin, oui, c'est surtout que Vladimir Poutine, vis-à-vis de ce qui forme peut-être l'élite économique et dirigeante de la Russie, il est garant d'une certaine capacité pour eux de jouir d'un certain mode de vie. S'il n'est plus en capacité de garantir ce mode de vie et qu'à l'extérieur, il n'est plus en capacité de valoriser la Russie et de lui garantir le rayonnement maximal, effectivement, il sera mis en balance. Vers quelle sortie irons-nous ? Je ne crois pas non plus qu'on soit vers un retournement ou une révolution populaire, mais il pourrait y avoir une révolution ou un mécontentement populaire et dont les élites prendraient le prétexte aussi pour forcer peut-être Vladimir Poutine soit à infléchir son cours, soit à partir.
Alors finalement, est-ce qu'il est trop tôt pour Jean de Glinesti, je vous pose la question, Lucas Aubin aussi, pour dire si oui ou non Poutine est aujourd'hui affaibli. Et j'avais cette question aussi à propos des oligarques. Est-ce qu'ils peuvent mener à un changement de politique du Kremlin, Jean de Glinesti?
Que Poutine soit affaibli, je crois que c'est clair, et tout ce qui a été dit ici l'a montré. Poutine est extrêmement vigilant sur sa droite, en fait. La gauche russe est éclatée. À supposer que Navalny même soit considéré comme à gauche, il n'a jamais constitué un vrai danger politique pour Poutine. En revanche, la droite, oui. C'est d'ailleurs, Navalny n'a été un danger pour Poutine que justement parce qu'il avait repris une partie des thèses nationalistes, parce que ça a beaucoup d'écho dans l'opinion, et avec la corruption, bien sûr. En fait, le vrai danger pour Poutine, c'est son extrême droite nationaliste. Il y a des chances que Madame Dougina, une idéologue d'extrême droite nationaliste qui, dont la voiture a sauté et ça visait son père, il y a des chances que ce soit les services russes qui l'aient fait. Les Ukrainiens n'ont pas revendiqué ceci. Les manifestations les plus violentes qui sont allées jusqu'au Kremlin dans les années 2010, c'était des manifestations nationalistes. Poutine a fait probablement le ménage, on ne sait pas si c'est lui ou pas, avec les mouvements d'extrême droite nationaliste dans les républiques de Donetsk et Lugansk. Il y a un certain nombre de gens dont la voiture a explosé, etc. Extrêmement vigilant pour garder le monopole, en quelque sorte, de la défense de la patrie, parce qu'il sait que ces thèmes sont très importants dans l'opinion russe. En ce qui concerne les oligarques, il y a en fait deux catégories d'oligarques, très sommairement. Il y a les oligarques qui sont enrichis au moment de la période de Yeltsin, et ceux-là, ils ne doivent rien à Poutine, si ce n'est la survie et le maintien de leur capital. Donc Poutine les avait réunis et leur a dit, si tu veux garder ton argent, tu te tais, tu investis là où je te dis d'investir, et tu es sage sur le plan politique. Ceux-là, ce ne sont pas des amis de Poutine, mais ils savent qu'ils lui doivent quelque chose. Ce sont ceux-là, lorsqu'ils sont à l'étranger, montrent qu'on voit bien qu'ils ne sont pas favorables avec la guerre. Et les autres oligarques, je schématise, ce sont ceux qui doivent leur fortune à Poutine. Et cette catégorie d'oligarques qui doit sa fortune à Poutine, elle n'a aucune influence sur Poutine, aucune. Et donc, ce n'est pas eux qui vont faire bouger les choses.
Alors, défense de la patrie, finalement, enfin, j'avais cette question que je vous pose, Lucas Aubin. J'en ai deux, mais peut-être qu'elles se rejoignent aussi d'une certaine manière. Comment est-ce que vous définiriez l'idéologie en place aujourd'hui en Russie? Et j'avais cette question qui s'avère finalement être d'une naïveté absolue au regard de ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que l'agression de l'Ukraine peut faire basculer une Russie débarrassée du régime autoritaire vers une démocratie d'inspiration occidentale et européenne? Ça, je pense qu'elle est à rayer définitivement, cette question.
Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Pour revenir à la question d'avant, très rapidement, il y avait un autre élément qui était important, je crois, c'est que Vladimir Poutine est en difficulté, certes en interne, mais aussi en externe. Et ça, c'est important, Elsa Vidal l'a rappelé un peu tout à l'heure, la Russie est de plus en plus isolée. Alors au début du conflit, on avait des sanctions, certes c'était des sanctions uniquement occidentales, et donc ça comprenait finalement 19% du nombre des pays présents à l'ONU, donc finalement c'est peu, mais 19% de ces pays, c'est 61% du PIB mondial, donc c'est quand même évidemment pas rien. Et ce dont on s'aperçoit depuis quelques jours, quelques semaines, c'est que la Chine, l'Inde, les pays d'Asie centrale aussi commencent peu à peu à indiquer une forme d'impatience vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine et vis-à-vis de cette guerre en Ukraine. Et le message en filigrane, c'est qu'il faudrait que ça ne dure pas trop longtemps, sous peine que nous te lâchions, Vladimir. Et il s'avère que Vladimir Poutine a mis un point d'honneur depuis 22 ans à opérer ce qu'il appelle lui-même le pivot vers l'Est, c'est-à-dire qu'il avait décidé de faire en sorte que de dériver en fait, l'économie russe vers l'Asie, et notamment vers la Chine, et en 15 ans, finalement, les échanges économiques entre la Russie et la Chine ont été multipliés par 13, ce qui est évidemment énorme, au point qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie. Actuellement, quand la Chine et Xi Jinping font pression sur Vladimir Poutine pour lui dire de terminer cette guerre le plus rapidement possible, ça signifie qu'il y a potentiellement une rupture derrière. Donc il y a une inquiétude de ce côté-là, et sans parler des pays d'Asie centrale, etc., etc. Pour répondre ensuite à votre question, effectivement, pour l'idéologie de Vladimir Poutine, l'idéologie de son régime, la plupart des chercheurs s'accordent pour dire qu'il n'y a pas d'idéologie au Kremlin actuellement, que Vladimir Poutine utilise des fragments idéologiques issus de la période tsariste, issus de la période soviétique, issus aussi du capitalisme libéral, etc., et qu'il utilise ces fragments pour une chose principale, essayer de conserver le pouvoir et pouvoir justement ensuite, lui, gérer l'État russe comme il le souhaite. Donc c'est la première chose. Ensuite, savoir si cette crise, cette guerre va engendrer un avènement démocratique en Russie, évidemment, c'est malheureusement beaucoup trop tôt pour le dire et les conséquences pourraient être dramatiques comme bien heureuses, mais actuellement, on a peu d'éléments pour s'avancer sur cette question.
Jean de Glignasti, je sentais que vous n'étiez pas d'accord sur tout ce que vient de dire Lucas Aubin.
Sur un point précis, pas tout à fait. Vous savez, on attribue à Bismarck la formule « la Russie n'est jamais aussi forte qu'on le craint et aussi faible qu'on l'espère ». Et je crois qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que tout est réglé, etc., et notamment sur un point qui est l'isolement de la Russie. En fait, il y a eu une réunion à Samarcande d'une organisation qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été perçue véritablement comme une espèce de contre-monde occidental. Dans cette réunion, il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y a des postulants comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, qui demande à être observateur et qui peut-être va rentrer. Et donc, il y a une sorte de contre-monde occidental qui se met en forme. Mais ce monde est fondé sur une base multipolaire. Chacun a le droit de parler. Poutine, on l'a fait attendre, comme les autres. C'est un monde multipolaire. Chacun fait valoir son point de vue. Et le point de vue de la Chine et de l'Inde notamment, c'est que ça serait bien de faire un cessez-le-feu. Ne nous y trompons pas. Poutine, il serait ravi d'avoir un cessez-le-feu parce qu'il capitalise les 20% du territoire ukrainien qu'il a conquis. Des négociations. Mais Poutine, il serait prêt à négocier. Qui ne veut pas négocier pour des raisons évidentes, puisqu'il a comme objectif, Zelensky, de récupérer l'ensemble de son territoire, c'est l'Ukraine. Donc il y a une certaine ambiguïté dans les propos qui ont été prononcés par la Chine, l'Inde et d'autres, mais concrètement, ces pays-là, ils n'appliquent pas les sanctions. Concrètement, l'Arabie Saoudite refuse d'augmenter de façon significative sa production de pétrole pour faire baisser les prix, parce que là, ça ennuierait sérieusement la Russie. Finalement, quand on dit que la Russie est isolée, c'est pas évident. Et les démarches diplomatiques qui ont été faites par les Américains, les Français et d'autres dans le monde pour essayer de mobiliser contre la Russie n'ont eu que des effets très limités.
Anna Colin-Lebedev, je vous laisse la conclusion de cette émission très rapidement pour terminer. J'avais peut-être cette question, est-ce qu'il y a une bonne solution pour Vladimir Poutine ?
La bonne solution pour Vladimir Poutine est-elle la bonne solution en général ? Ça, c'est une question que l'on peut poser. En réalité, c'est très difficile. On est vraiment au début d'un basculement aussi bien en termes de politique intérieure russe que de conduite de cette guerre. Effectivement, l'Ukraine est aujourd'hui très mobilisée, comme le disait Elsa Vidal. Alors, j'aurais peut-être une analyse un petit peu différente de celle de Jean de Glignasti. Elle n'est pas mobilisée pour récupérer ses territoires. Elle est mobilisée parce que pour elle, c'est une guerre existentielle. C'est-à-dire que soit elle arrête la Russie définitivement, soit elle périt et elle disparaît parce qu'elle perçoit le projet d'agression russe comme un projet génocidaire. Et bien évidemment, on n'arrête pas une guerre génocidaire en délimitant des frontières et en donnant un territoire au génocidaire qui veut en fait le tout. Donc, équation compliquée et surtout, moment important qui rebat certaines cartes et qui va sans doute transformer certains équilibres à l'intérieur de la Russie, tout comme sur la ligne de front.
Merci beaucoup Anna Colin-Lebedev. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, autrice de « Jamais frères, point d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique » aux éditions du Seuil. Merci aussi à Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de Radio France Internationale. Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur, également auteur concernant son dernier ouvrage de la Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol, et Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte. Géopolitique était signée Marie-France Chatin et Bertrand Éclair au lieu unique à Nantes qui a accueille ce week-end les géopolitiques de Nantes, un événement co-organisé par l'IRIS et Nantes Métropole. Demain, nous parlerons du Brésil à une semaine de l'élection présidentielle.